Jésus se rendit au mont des Oliviers. Mais dès le matin, il se rendit de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. Il s'assit et les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amènent une femme surprise en adultère, la placent au milieu et disent à Jésus: « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a prescrit de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur la terre. Comme il persistait à le questionner, il se redressa et leur dit « Que celui de vous qui est sans péché lui jette le premier la pierre. » Et de nouveau il se baissa et se mit à écrire sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent, un à un, à commencer par les plus âgés et jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là, au milieu. Alors Jésus se redressa et lui dit: « Femme, où sont tes accusateurs? Personne ne t'a condamnée ?» Et elle répondit: « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit: « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. » Nous arrêtons ici la lecture de la parole de Dieu, et avant d'aller plus loin, je vous invite à prier. Nous confessons, Seigneur notre Dieu, que ta parole est la vérité. S'il te plaît, sanctifie-nous par ta vérité. Prends ta parole, Seigneur, et applique-la à notre vie par la puissance de ton esprit. Et au nom de Jésus. Amen. Si vous avez déjà blessé quelqu'un par vos reproches, ou si vous avez déjà été blessé par les reproches de quelqu'un, alors ce message est pour vous. Ce message vous concerne. Parce que dans ce texte, l'auteur veut dénoncer ce qui est à la racine de ce problème, à savoir le sentiment que nous avons de notre propre supériorité morale par rapport aux autres. Mais avant d'aller plus loin, je dois vous préciser quelque chose concernant le texte que je viens de lire. Quand j'ai dit à Jonah il y a quelques jours sur quel texte j'allais prêcher, il m'a répondu en rigolant: « Ah oui, le texte qui n'est pas dans la Bible. » Certains spécialistes, en effet, et surtout depuis un siècle et demi à peu près, contestent l'authenticité de ce passage et estiment qu'il ne devrait pas figurer dans la Bible. Pourquoi cette controverse? Eh bien, principalement parce que cet épisode est absent de plusieurs des meilleurs et des plus anciens manuscrits que nous ayons à notre disposition. Autrement dit, il y a des gens qui disent « Ce passage n'était pas dans la version originale de l'évangile que Jean a écrit. Quelqu'un d'autre a dû l'insérer dans cet endroit. C'est donc une interpolation que l'on devrait aujourd'hui enlever de la Bible pour retrouver le texte original que Jean a écrit. » Et il y a même des commentateurs de convictions globalement évangéliques qui estiment qu'on ne devrait pas prêcher sur ce texte. Ils ne vont pas jusqu'à dire « non, il faut l'enlever de la Bible », mais ils disent « non, mais il faut éviter de prêcher sur ce texte ». Alors, je ne vais pas rentrer dans tout le détail de cette controverse. Peut-être qu'un jour, on organisera une conférence là-dessus. Mais donc, je ne vais pas rentrer dans tout le détail de cette controverse, mais je voudrais quand même vous rassurer et vous donner brièvement quelques raisons pour lesquelles nous pouvons croire à l'authenticité, à l'autorité et à l'inspiration de ce texte. Premièrement, le passage ne figure pas. Alors c'est un peu technique, je m'excuse d'avance, mais je veux vous rassurer quand même. Parce que ça ne sert à rien que je prêche là-dessus et pendant tout ce temps vous vous dites « ouais, mais ça se trouve, c'est pas dans la Bible ». Je vous rassure. Donc premièrement, le passage ne figure pas dans quelques-uns des meilleurs et des plus anciens manuscrits, mais il figure dans la majorité des manuscrits. Dont en particulier un qui remonte vraisemblablement à la fin du IVe siècle, c'est-à-dire qui se rapproche beaucoup des manuscrits les plus anciens que nous ayons. Deuxièmement, ce passage a toujours figuré dans la traduction latine de la Bible que l'on appelle la Vulgate et qui a été réalisée à la fin du IVe siècle, donc il y a bien bien longtemps, par des gens qui avaient un bien meilleur accès aux sources que nous aujourd'hui. Troisièmement, en tant que croyants, quand nous nous posons ce genre de questions concernant l'authenticité d'un texte biblique, nous devons tenir compte du fait que Dieu, dans sa providence, est parfaitement capable de préserver l'intégrité de sa révélation au cours de l'histoire. Et donc, il semblerait un peu étrange, de ce point de vue-là, que pendant pratiquement 1500 ans, Dieu ait permis à l'Église de s'appuyer sur un texte et de prêcher un texte qui n'était pas inspiré par lui. Vous voyez ce que je veux dire? Et qui n'aurait pas dû être dans le canon biblique, et donc qui figurait par erreur pendant 1500 ans. Et quatrièmement, il y a aussi un grand nombre de spécialistes, y compris des contemporains, qui ont défendu de façon très convaincante l'authenticité de ce texte. Donc, puisque ce passage ne présente rien de contradictoire avec le reste de la révélation biblique, nous pouvons aisément nous ranger à l'avis de Jean Calvin, qui était déjà au courant de cette petite controverse et qui a dit, au sujet de cet épisode, qu'il n'y a nulle cause pourquoi nous dussions refuser de l'accommoder à notre profit. Et nous allons donc, cet après-midi, accommoder à notre profit ce texte, et en voyant notamment que dans ce passage, Dieu veut détruire le sentiment que nous avons de notre propre supériorité morale. Ok ? Vous êtes prêts ? Cette bouteille se vide à une vitesse inquiétante. Alors, premièrement, le texte que nous venons de lire nous force à considérer l'attitude des scribes et des pharisiens, qui sont l'exemple suprême dans les évangiles de gens qui ont le sentiment de leur propre supériorité morale par rapport aux autres. Et on va voir que de ce sentiment découle une stratégie de défense qui est universelle. Alors je vous relis les premiers versets. Jésus se rendit au mont des Oliviers, mais dès le matin il se rendit de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. Il s'assit et les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amènent une femme surprise en adultère, la placent au milieu et disent à Jésus « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi nous a prescrit de lapider de telle femme. Toi donc, que dis-tu ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Donc Jésus s'installe avec beaucoup d'assurance dans le temple, le lieu de culte par excellence des Juifs. Et là il s'installe, il s'assoit, nous dit le texte, et il se met à enseigner tout le peuple qui est venu auprès de lui. Ça ne plaît pas du tout aux scribes et aux pharisiens, qui sont censés, quant à eux, être les spécialistes de l'enseignement de la Torah, de la Bible des Juifs. Alors, ces scribes et ces pharisiens sont jaloux, ils sont vraisemblablement blessés dans leur amour propre, et pour se défendre, quelle est leur stratégie ? C'est l'offensive, c'est d'accuser. Pour se défendre, ils décident d'accuser, et ils accusent quelqu'un de vraiment corrompu moralement, quelqu'un de vraiment pas bien, une femme surprise, en flagrant délit d'adultère. Alors comme ça, les scribes et les pharisiens sont sûrs d'être moralement supérieurs par rapport à cette femme qu'ils placent devant tout le monde. Mais le texte précise que ce n'est pas foncièrement cette femme qu'ils désirent accuser. C'est Jésus qu'ils veulent accuser. Vous avez vu ce qui est dit au verset 6. Il disait cela pour le mettre à l'épreuve afin de pouvoir l'accuser, lui, Jésus. Ils demandent donc s'il faut lapider cette femme, mais la personne à qui ils veulent vraiment jeter la pierre, c'est pas la femme adultère, la personne à qui ils veulent vraiment jeter la pierre, c'est Jésus qui est venu empiéter sur leur territoire. D'accord ? Alors pourquoi les scribes et les pharisiens se sentent-ils menacés par Jésus, à votre avis ? Eh bien, si vous voulez savoir comment pense un pharisien, écoutez plutôt. C'est dans l'Évangile selon Luc. Écoutez plutôt. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre péager. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. Alors voici comment pense un pharisien. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont accapareurs, injustes, adultères, ou même comme ce péager. Moi, je jeûne deux fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Oh Seigneur, je te remercie. Je te loue même de ce que je ne suis pas comme ces autres gens. » Alors ça, c'est le sentiment qu'a le pharisien de sa propre supériorité morale. Vous voyez comment pense un pharisien ? Donc vous pouvez comprendre que quand Jésus traite les pharisiens, comme il le fait dans l'évangile de Matthieu, quand il traite les pharisiens de vipères, hypocrites et aveugles, fils du diable, sépulcre blanchi plein d'ossements, de mort et d'impureté, vous pouvez imaginer que ça ne plaît pas trop aux pharisiens. Mais combien d'entre vous, en m'écoutant là, précisément maintenant, à cet instant précis, vous êtes en train de penser en vous-même, « Ô Dieu, Je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les pharisiens, qui sont hypocrites, arrogants, orgueilleux et incrédules. Tiens, tiens. Alors, si vous pensez que vous valez mieux que les pharisiens, c'est que le sentiment que vous avez de votre propre supériorité morale est encore plus grand et encore pire que celui des pharisiens. La vérité, c'est que nous avons tous le cœur d'un pharisien. C'est pas vrai. Et la preuve en est que nous aussi, et nous tous, nous sommes enclins à être blessés dans notre amour-propre par les reproches des autres. Notre stratégie de défense est la même. Nous passons à l'offensive, et c'est à notre tour d'essayer de jeter la pierre à quelqu'un d'autre. Donc vous voyez que dans un premier temps, ce texte nous force à considérer l'attitude et le comportement de ces scribes et de ces pharisiens qui nous ressemblent. Mais revenons à ce qui se passe dans le texte. Les scribes et les pharisiens, donc, ils tendent un piège à Jésus. Que faut-il faire, maître? Notez en passant l'hypocrisie de ces scribes et ces pharisiens qui appellent Jésus leur maître alors qu'ils sont là précisément pour lui faire du tort, pour l'accuser devant tout le monde. Que faut-il faire, maître? Faut-il lapider cette femme, comme le dit la loi de Moïse? Ah, c'est un piège, bien sûr, parce que si Jésus dit oui, alors là, ils vont pas le rater, ils vont dire à tout le monde, vous voyez, le Dieu de ce Jésus, c'est un père fouettard, dénué d'amour, de compassion et de miséricorde. Mais s'il dit non, faut pas la lapider. Alors là, ils vont dire, ah, mais regardez, le Dieu de Jésus, c'est un père Noël, dénué de justice, toujours prêt à faire des cadeaux aux enfants, même quand ils n'ont pas été sages. Alors dans les deux cas, Jésus, il perd en crédibilité. C'est un piège. Mais voilà que Jésus va complètement retourner la situation. Et le but des versets qui suivent, c'est de donner la parole à notre conscience. Lisons ce qui se passe au verset 6 à 9. La fin du verset 6. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur la terre. Comme ils persistaient à le questionner, il se redressa et leur dit « Que celui de vous qui est sans péché lui jette le premier la pierre. » Et de nouveau, il se baissa et se mit à écrire sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, à commencer par les plus âgés et jusqu'au dernier. Alors la première réaction de Jésus est très surprenante. Hein. Qu'est-ce qu'il fait? Il ignore complètement les pharisiens. Il se baisse et il se met à gribouiller par terre. Alors, qu'est-ce que vous ressentiriez, vous, à la place des scribes et des pharisiens à ce moment précis? Ah, vous seriez certainement vexé. Non, mais celui-là, il prend même pas la peine de nous regarder et de nous répondre. Quelle impolitesse! En fait, Jésus sait très bien quelles sont les motivations malveillantes de ces gens, hein, de ces scribes et de ces pharisiens. Et en les ignorant, il montre en fait qu'il sait que ce n'est pas une question sincère. Et il montre le fait qu'il sait, qu'il a compris, qu'il a très bien compris que c'est un piège. Et il est fatigué des stratégies de ces scribes et de ces pharisiens qui cherchent à lui faire du tort, de ces stratégies hypocrites, hein, où ils viennent en l'appelant maître, alors qu'en fait, ils ne cherchent qu'une chose, c'est à l'accuser. Mais en même temps, en les ignorant, et je pense qu'il n'y a pas vraiment de mystère à entretenir par rapport à ce que Jésus était en train d'écrire par terre. Tout ce que le texte dit, c'est qu'il se baisse et qu'il gribouille, qu'il écrit ou qu'il dessine, c'est un verbe qui est un peu ambigu, il gribouille, il dessine, il écrit par terre. Peu importe ce qu'il était en train d'y écrire. L'idée, c'est qu'il ignore les scribes et les pharisiens à ce moment précis. Et en les ignorant, on a l'impression qu'il fait exprès de les blesser un peu plus dans leur amour-propre. Un peu comme s'il voulait les forcer à se regarder dans le miroir, il voulait les forcer à les mettre face à face avec l'état de leur cœur. Et en fait, Jésus, à ce moment précis, est en train de préparer le terrain pour sa vraie réponse qui est sur le point de sortir. Dans leur agacement, donc, les pharisiens persistent, ils insistent. Et Jésus finit par se relever, et très solennellement, il leur dit tout simplement que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre. Et aussitôt il se rebaisse et il recommence à dessiner par terre. Autrement dit, oui, la réponse à votre question est oui. Allez-y, lapidez-la, selon la loi de Moïse. De toute façon, Moïse l'a écrit, il était inspiré par Dieu, c'est la loi. Mais que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre. Et pour comprendre la portée de ce que dit Jésus, il faut comprendre sous quelles conditions on appliquait la peine de mort, à savoir dans ce cas précis la lapidation, dans la loi de Moïse, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament. Certes, et on peut le vérifier aujourd'hui, hein, l'adultère était passible de la peine de mort par lapidation. Mais la sentence, d'une part, n'était jamais prononcée sans un vrai procès. Et d'autre part, il n'y avait jamais de vrai procès sans la présence de vrais témoins. Et ensuite seulement, à l'issue d'un vrai procès avec de vrais témoins, si la personne était condamnée à être lapidée, on appliquait la sentence. Mais, il y a encore un mais, c'était aux témoins à charge, de jeter les premières pierres. Comme ça, vous voyez ce qui se passe, les témoins qui allaient accuser au procès la personne dont on faisait le procès, étaient forcés à vraiment mesurer l'enjeu de leur témoignage et de leurs accusations. Est-ce que tu es prêt, en accusant cette personne, à aller jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à jeter le premier, les pierres qui vont mener à sa mort? Voilà ce qui était prévu dans la loi de Moïse. Jésus est donc en train de s'adresser aux accusateurs de cette femme adultère, et il leur dit, oui bien sûr, si cette femme est effectivement adultère, elle mérite d'être lapidée, mais vous, témoins à charge, vous les accusateurs, êtes-vous prêts à assumer jusqu'au bout vos accusations? Et les pharisiens réfléchissent, et ils se rendent compte qu'ils ne sont pas prêts à assumer leur rôle de témoins à charge dans un procès contre cette femme. Pourquoi? Parce qu'ils savent ce que c'est que le péché, ce mot interdit, ce gros mot que Jésus vient de prononcer, et par conséquent, leur conscience les accuse, nous dit le texte. Ils savent qu'ils ne sont pas en position de condamner cette femme. Et donc, ils se retirent un à un, à commencer par les plus âgés, sans doute parce que les plus âgés avaient plus d'âge, de par leur âge et leur expérience, avaient une conscience plus aiguisée, étaient plus sensibles à ce que disait Jésus ici. Mais vous, ce soir, est-ce que vous savez ce que c'est que le péché? Le péché, c'est tout le mal qu'on fait, additionné à tout le bien qu'on ne fait pas. C'est tout le mal qu'on fait, additionné à tout le bien qu'on ne fait pas. Et ici, Jésus fait tomber l'illusion de notre propre justice. Et par conséquent, il fait tomber aussi l'illusion de notre propre supériorité morale par rapport aux autres. À travers sa réponse aux pharisiens, vous voyez que Jésus est en train de donner la parole non seulement à la conscience des pharisiens qui les accusent, mais il est en train de donner la parole à notre conscience. Et qu'est-ce qu'elle vous dit en ce moment précis, votre conscience? Je vous pose la question ce soir. Quand vous êtes enclin à faire des reproches à quelqu'un, à jeter la pierre à quelqu'un, que ce soit en parole ou en pensée, est-ce que vous êtes prêt à être jugé du même jugement que celui dont vous jugez, à être mesuré de la même mesure que celle dont vous mesurez, comme le dit Jésus dans l'Évangile selon Matthieu. Vous vous dites peut-être, oui, mais il y a bien des gens qui font plus de mal que moi, donc je suis bien supérieur moralement à ces autres-là. Mais ça, c'est comme si on vous présentait deux gâteaux empoisonnés et qu'on vous dise, celui-ci contient moins d'arsenic que celui-là. Lequel est-ce que vous préférez manger? En fait, à cause de ce que Jésus et la Bible appellent le péché, qui est un poison mortel pour l'homme, même à petite dose, eh bien nous méritons tout autant qu'on nous jette la pierre que les gens à qui nous voulons la jeter. Nous méritons tout autant qu'on nous jette la pierre que les gens à qui nous voulons la jeter. N'est-ce pas? Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Et les deux derniers versets sont vraiment remarquables. Ils sont vraiment remarquables, les versets 10 et 11. Pourquoi sont-ils remarquables? Parce que dans cette histoire, eh bien, il y a bien une personne qui est sans péché dans cette histoire. C'est Jésus, bien sûr. qu'il y a bien une personne qui est sans péché, c'est Jésus, alors il aurait pu être conséquent avec lui-même, conséquent avec son discours, il aurait pu montrer à tout le monde en toute légitimité sa propre supériorité morale par rapport à tous les autres. Et qu'est-ce qu'il aurait pu faire pour ça? Il aurait pu se baisser, ramasser une pierre et jeter cette pierre en pleine figure de cette pauvre femme. Vous voyez ce qu'il aurait pu faire, Jésus? Et il aurait pu le faire de façon tout à fait légitime. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Voyons ce qui se passe. Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors Jésus se redressa et lui dit, « Femme, où sont tes accusateurs ? Personne ne t'a condamné ?» Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. » Il y a dans cette conclusion une étonnante absence. D'une part, l'absence d'accusateurs. Où sont-ils tes accusateurs ? Oh, ben, il n'y a plus personne, Seigneur. Mais il y a une autre absence étonnante, c'est l'absence, surtout, de condamnation. La femme reste seule devant Jésus et en réalité c'est devant lui qu'elle devrait trembler bien plus que devant les scribes et les pharisiens. Bien plus. Mais Jésus lui dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Notez bien que Jésus ne lui dit pas, allez, laisse tomber, on oublie, on fait comme si rien ne s'était passé. Allez, c'est pas grave. Non, il ne lui dit pas ça. Jésus lui dit, je ne te condamne pas. Ce qui sous-entend qu'il y avait bien des raisons qu'elle soit condamnée. Mais comment Jésus, qui est le Fils de Dieu, qui est sans péché, qui est saint et juste, qui a toujours lui-même reconnu l'autorité de la loi de Moïse, comment Jésus peut-il, à ce moment précis, se montrer aussi magnanime ? Eh bien, il est impossible de comprendre ce que Jésus dit à cette femme dans ce passage si on ne comprend pas ce que Jésus a fait dans un autre passage. Et en fait, l'évangile de Jean, comme les autres évangiles, comme d'ailleurs la Bible tout entière, pointe vers un événement capital dans le ministère de Jésus, à savoir sa mort. Et sur la croix, Jésus a subi la peine de mort d'un criminel alors qu'il était le seul à être parfaitement innocent. Mais cette mort, Jésus l'a subie au profit de tous ceux qui, bien que coupables comme cette femme adultère, se confient en lui pour le pardon de leurs péchés. Jésus a subi, voyez-vous, le châtiment prévu par la loi de Moïse. Il a subi le châtiment de la loi à la place de tous les criminels qui croient en lui, que ce soit des scribes, des pharisiens ou des hommes et des femmes de mauvaise vie. La Bible dit que Jésus a été transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Donc quand Jésus dit à cette femme adultère, que lui non plus il ne la condamne pas. En fait, il est en train d'accepter, tacitement, d'être lapidé à sa place. Et si Dieu pardonne vos péchés aujourd'hui, n'oubliez pas, n'oubliez surtout pas que c'est parce que Jésus a accepté d'être condamné à votre place. Si Dieu pardonne vos péchés, n'oubliez surtout pas que c'est parce que Jésus a accepté d'être condamné à votre place. Dieu n'est pas un père fouettard dénué d'amour, de compassion ou de miséricorde. Dieu n'est pas non plus un père Noël dénué de justice qui récompense les enfants même quand ils ne sont pas sages. Dieu est un père céleste dont la justice et l'amour ont été satisfaits ensemble à la croix de façon atroce et spectaculaire par la mort de celui qui était innocent et parfait. Jésus-Christ, le juste, nous dit la Bible. Et il l'a fait au profit de ceux qui placent leur confiance en lui. Est-ce votre cas ce soir? Avez-vous placé votre confiance en Dieu qui peut pardonner vos péchés grâce à la mort et à la résurrection de Jésus? Alors j'aimerais récapituler rapidement avant de terminer. Nous avons donc tous déjà blessé quelqu'un par nos reproches. Et nous avons tous déjà été blessés par les reproches de quelqu'un. Pourquoi ? Parce que, au fond, nous avons le sentiment de notre propre supériorité morale, de notre justice propre, Et c'est cela qui nous rend sensibles à ce que les gens nous disent. Et c'est cela qui provoque en nous cette stratégie de défense qui consiste à attaquer en retour et à jeter la pierre en retour. Ce texte nous a donc forcés à considérer l'attitude des scribes et des pharisiens qui nous ressemblent. Mais ensuite, le texte a donné la parole à notre conscience, qui nous accuse elle aussi, car nous sommes tous coupables du mal que nous faisons additionné au bien que nous ne faisons pas. Nous ne valons pas mieux que la femme adultère, et nous ne valons pas mieux que les pharisiens non plus. Cette perspective, mes amis, doit conditionner notre rapport aux autres, surtout à l'intérieur de l'Église, bien entendu, mais pas seulement. Cette perspective doit aussi susciter en nous une grande prudence et une grande humilité, surtout lorsque nous avons envie de nous élever au-dessus des autres. Mais cette perspective doit aussi susciter en nous une grande reconnaissance. Une grande reconnaissance car il y a bien un homme, un seul, qui a vécu une vie parfaite, qui était digne de jeter la pierre, qui était digne de nous la jeter, la pierre, mais qui a préféré la prendre sur lui, cette pierre. Jésus en effet a payé le prix fort, celui de sa vie, pour que tous ceux qui se confient en lui puissent s'entendre dire « Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. » Amen.